absolument indispensable pour notre santé mentale. Que nous sachions exactement quelle est notre histoire. Il est absolument indispensable que nous sachions où nous en sommes. Il est absolument indispensable pour notre santé mentale que notre histoire ne soit pas piétinée, ne soit pas reléguée aux oubliettes, ou pire encore, ne soit pas transformée, escamotée. Il faut que notre histoire ne soit pas réduite à des histoires multiples, à des histoires comme au Sri Lanka, par exemple. Il faudrait, je crois, faire en sorte que nous ayons une histoire commune. Il faut faire en sorte que nous ayons une histoire qui soit l'histoire de tous les régimes, de tous les Comoriens, comme ici, par exemple, en France, il y a une histoire de tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il faut faire en somme que nous ayons une mémoire à laquelle nous pouvons nous référer, parce que sinon, ce n'est même pas la peine de parler de nation. Sinon, ce n'est même pas la peine de parler de développement. Il faut que nous mettions d'accord sur cela. Et il y a eu... Ah, celui qui me revient à l'esprit en ce moment, c'est le procès de l'affaire dit Porno. Vous savez, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout le monde connaît cette affaire-là. Et tout le monde sait qu'il y avait des gros légumes là-dedans. Il y avait des gens... quand même, qui était bien assis, et pas seulement dans le gouvernement comorien, mais aussi dans le corps diplomatique. Ah, alors là, ça devenait ultra sensible. C'est la haute tension. Faut pas toucher. La procédure a été ouverte. La procédure a été ouverte et on a continué, on a continué, on a continué. Et puis au moment où on est arrivé dans les hauts et dans les zones, la tension était haute. Alors là, on s'est arrêté. Et il y a eu... Mais c'est vrai, tout le monde sait cela. Alors, il y a eu des libérations vraiment mystérieuses, dont on ne sait pas si elles sont provisoires ou définitives, plutôt définitives que provisoires, et tout a fini par des chansons. C'est une affaire qui, pourtant, ne touche pas directement la politique. C'est une affaire de droit commun. La procédure a commencé, elle ne sera jamais finie. Jamais, jamais, jamais. Arrive alors, à la suite, l'affaire des faux billets. Vous vous souvenez de l'affaire des faux billets? On a parlé, on a fait un tapage, mais bougon extraordinaire. Et puis on n'en a plus jamais reparlé. Plus jamais. Voilà, l'image exacte de notre justice, l'image exacte de notre mémoire, je dis de notre mémoire parce que nous savons que le procès, quel qu'il soit, a une vertu de passerelle. Le procès, ça accompagne la victime. Quand il y a solution du procès, ça régénère la victime dans son intérieur, ça lui permet de se ressouder, de ressouder ses morceaux brisés, ça lui permet d'avoir des relations normales avec les autres, ça permet de le remettre dans le circuit social. Et par là même, cela contribue à la cohésion sociale. Il ne faut pas oublier les procès politiques. Il n'y a jamais eu, mais alors ce n'est pas le fait du régime actuel seulement, c'est le fait de tous les régimes. Et d'abord celui de l'Israël. Il n'y a jamais eu de procès d'Ahmed Abdallah après le premier coup d'État. Alors qu'on l'accusait de tous les maux. Mais sur quelle base? On n'a jamais fait de procès là-dessus. On n'a jamais fait de l'instruction. On n'a jamais fait une enquête. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et puis Ali Soli tombe. On a accusé de tous les maux. Mais de tous les maux. Les PG d'Israël, oh là, c'est rien du tout, les PG d'Israël. Vraiment, on a accusé de tous les maux. Mais il n'y avait pas l'ombre d'une pièce dans un dossier pour montrer que véritablement Ali Soli était coupable. Et quand on l'a tué, pensez-vous qu'on aurait fait un procès pour savoir qui l'a tué et pourquoi? Jamais de la vie. Jamais. n'a jamais fait. Alors pourquoi on n'a jamais fait cela? Pourquoi ce procès n'a jamais eu lieu? Pourquoi on n'a jamais examiné ces griefs dont j'expose quelques-uns dans la citerne? On aurait pu, si le gouvernement qui avait pris la relève était un gouvernement responsable, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'a jamais été. S'il avait été responsable, il aurait fallu faire un recensement de tout ceci, ouvrir des enquêtes, faire des commissions, et ne pas se contenter d'accuser, comme je le fais ici d'ailleurs, mais moi je ne suis pas une juridiction, j'ai bien le droit, comme je le fais ici. Si d'ailleurs il y avait eu des jugements, la publication de l'ouvrage aurait été autre. Jamais je n'aurais écrit ceci sans me référer au jugement, puisqu'il y aurait eu ces personnes que j'ai citées, ils auraient eu des dossiers au tribunal, ces dossiers auraient été traités au tribunal, auraient été examinés, et on aurait eu des jugements. Jamais on dit ça. Alors, notre pays est le seul pays, j'allais dire le seul pays, mais il faudrait être modeste, disons, un des rares pays, il faut être modeste même dans la médiocrité, un des rares pays où l'image du chat, vous savez, le chat qui va un peu dans son petit coin sur sa litière et qui fait ce qu'il fait et qui recouvre le tout et qui recommence. C'est un peu cela. Notre pays, c'est exactement cela. Mais c'est vraiment déchirant. Nous ne sommes que cela. Et comment pouvons-nous avancer? Mais c'est vraiment extraordinaire que nous soyons debout encore, après avoir porté tout ça, toutes ces incohérences, toutes ces incertitudes, toutes ces ténèbres, mais c'est pas possible. Comment avons-nous pu tenir? Et c'est vraiment, mais vraiment miraculeux. C'est un miracle. Bien, moi je pense que pour que des débats comme celui qui va s'engager ici, je ne dis pas qu'il n'y ait pas lieu, parce qu'il y en aura toujours, quelles que soient les circonstances, mais pour qu'il soit, disons, moins tendu, pour qu'il y ait moins de préjugés et un peu plus de compréhension, pour que nous puissions nous rapprocher les uns des autres et avoir le moins de divisions, le moins de dissensions possibles entre nous, je crois que l'on pourrait penser, et c'est une proposition que je vous fais, c'est une idée qui me trotte en tête depuis un petit moment, j'y pense, nous pourrions peut-être faire un tribunal comme le tribunal Roussel. Vous vous en souvenez, ce tribunal qui avait été créé, je crois, au moment de la guerre du Vietnam, pour juger des crimes des Américains au Vietnam. C'était Bertrand Roussel et Jean-Paul Sartre qui avaient proposé la création et qui avaient présidé à cette juridiction, et je crois que cela a donné de très bons résultats. Je crois que nous pourrions l'adapter au comment, puisque aussi bien nous savons que chez nous il n'y aura jamais de justice. Amen. Mon Dieu, il ne faut jamais désespérer, il y en aura bien un jour, pourvu que nous vivions assez longtemps pour le voir. Mais nous pourrions très bien, d'ici, puisqu'ici quand même, nous pouvons peut-être, avec un peu de chance, nous pouvons constituer peut-être un tribunal qui aurait essentiellement des attributions morales, mais qui aurait aussi une valeur morale, pour justement faire le travail que nous avons essayé de commencer maintenant. Évidemment, on ne le fera pas. Un travail d'enquête, de commission, un travail d'instruction et un travail de jugement. Puisqu'on ne juge pas là-bas, eh bien nous jugerons ici. Les jugements, évidemment, n'auront pas la même force que ceux qui sont rendus dans le pays, bien sûr, mais au moins nous aurons une satisfaction morale d'avoir essayé, dans la mesure du possible, de cerner un peu notre histoire et de lui donner un sens. À ce que nous ayons au moins un jugement. Est-ce que, je m'adresse à vous qui avez assisté au procès Denard à Paris. Cela ne vous a pas fait quelque chose au cœur de constater que ce procès se passait à Paris. Il y a des gens qui ont dit, mais ce procès, c'est un procès qui n'est pas vous. Un peu séminable, puisqu'une parodie de procès. Un peu, qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce que c'est ce cinéma, qu'est-ce que c'est ces officiers de la DGSE, de je ne sais plus quel service secret qui défile à la barre. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est vraiment la première fois que l'on voyait dans un procès en France des officiers de service secret passer à la barre et donner un certificat de moralité à un mercenaire. C'était vraiment une première. Évidemment, tout ça, c'était affreux. Évidemment, tout ça, c'était affreux. Affreux comme homme, évidemment. Mais, ce qui était plus affreux encore, c'est que ce procès ait eu lieu à Paris. Nous aurions dû faire ce procès chez nous. Mais cela n'a pas été possible parce qu'il n'y a pas de justice chez nous. Et ça, il faudra bien que nous l'ancrions définitivement en nous-mêmes. Il faudra bien que nous ouvrions les yeux, que nous ayons le courage de voir cela en face. Il faudra bien que nous comprenions que finalement nous n'avons pas de pays. Tous ces procès qui n'ont pas été faits, je ne parle pas des procès de droit commun. Je parle des procès, j'allais oublier, mais celui-là il est entre le droit commun et le politique. J'allais oublier celui de mon confrère et ami Maître Larifou. Il est ouvert, il ne sera jamais fermé. Jamais. On a commencé la procédure, mais la procédure ne finira pas. On peut faire ça en temps réel, parce qu'on peut avoir des affaires, et ces affaires, eh bien, nous émettrons ce jugement, nous dirons, il y a eu ceci qui a été fait, or, ceci s'est fait parce que ceci, parce que cela, nous avons repris tel témoignage, nous avons envie tel document, et en conséquence, on l'a joué. Au nom du peuple comorien. Oh, moi, nous soufflerons un peu. Nous aurons cette satisfaction toute morale d'avoir au moins exprimé un sentiment de justice. Et nous aurons la conscience, nous aurons l'assurance, la certitude que notre conscience morale n'est pas morte. Et c'est très, très important. Voilà ce que je crois nous pourrions faire et qui rendrait beaucoup de services dans le cadre de débats comme celui qui va s'ouvrir. J'arrive maintenant à ce débat parce qu'il ne faudrait pas tout de même que je monopolise la parole. J'arrive quand même à ce débat. La question que je pose, c'est celle de savoir si la citerne qui, je répète encore, est le symbole de tout ce qui s'est passé de mauvais. Alors, je précise, de tout ce qui s'est passé de mauvais. La citerne, c'est un symbole. Est-ce que cette citerne est un mythe ou une réalité? La citerne, c'est, encore une fois, je répète, le symbole, mais c'est un symbole qui est extrêmement douloureux, parce que je le rappelle très brièvement, pour ceux qui n'étaient pas encore là en 1975, c'est une citerne à moitié remplie d'eau, dans laquelle on faisait pénétrer des gens qui étaient simplement accusés d'avoir désobéi. C'était parce qu'ils avaient désobéi. Mais je dis bien désobéi, comme on dit qu'on punit un enfant qui a désobéi. Il y a une loi qui a été, une loi téléphonique la plupart du temps d'ailleurs, quelquefois elle est écrite, mais très souvent elle est téléphonique, une loi qui a été édictée, et puis, je prends par exemple les dépenses somptuaires, c'était cela surtout qui envoyait les Comoriens par dizaines, par centaines dans les citernes. Et vous avez fait le machouli, et tel jour, et tel jour, vous avez dépassé le chiffre. Alors vous allez aller dans la citerne. Voilà. Et dans la citerne, on y restait, le temps qu'il faut rester. D'ailleurs, je crois que Hassan, qui a fait l'expérience de la citerne, va nous donner quelques explications là-dessus tout à l'heure. Et bon, on y restait, et puis... Si, tu me l'as raconté. Deux fois, alors, deux fois. Donc, qui était deux fois dans la cité, on va le raconter.
Pour désobéissance.
Deux fois pour désobéissance. Hein, là, on m'a dit. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit le symbole. Mais il y a d'autres, hein, nous aurions pu le prendre. Mais la citerne, c'est, je crois, le symbole le plus saisissant et le plus célèbre. Ça n'était pas forcément le plus douloureux. Il y avait d'autres tortures, d'autres instruments de torture dont je préfère ne pas parler. Eh bien, mythe ou réalité? Alors là, je vais dire deux mots sur le mythe et puis je vais me taire parce que je parle vraiment trop. Le mythe, bon, selon les anthropologues, d'abord, il faut dire qu'il y a deux sens. Il y a le sens péjoratif, ce n'est pas celui-là. Hein. Ce n'est pas un mythe, enfin, je pense que nous sommes d'accord, puisque mon éminent contradicteur reconnaît bien que c'est une réalité, mais il s'agit de savoir si, en plus, c'est une mythe, c'est un mythe. C'est une réalité, d'accord, mais est-ce que c'est devenu un mythe? Un mythe, c'est une relation, c'est un récit. Un récit fabuleux, la plupart du temps, qui est d'origine populaire et qui renferme une certaine symbolique, qui exprime certaines valeurs, certains sentiments, certaines émotions collectives qu'on a vécues, que le peuple a vécues et qui représente, donc par exemple, bon, et ça peut représenter des personnes. Des personnages comme, disons, César, par exemple, est un mythe. De Gaulle est un mythe.
Charlemagne
est un mythe. Einstein est un mythe. Eh bien oui. Alors là, il faut dire que c'est un mythe. Mais le problème est de savoir quel signe on peut affecter à ce mythe. Est-ce un mythe positif ou est-ce un mythe négatif? Parce que pour qu'un mythe soit dynamique, pour qu'il soit vraiment porteur de valeurs, pour qu'il soit accélérateur du mouvement de l'histoire, pour que ce mouvement soit véritablement un moteur, il faut qu'il soit positif. Et s'il n'est pas positif, alors c'est un mythe négatif et qui met le peuple, comme c'est le cas ici, dans des conflits, dans des explosions, dans des affrontements qui peuvent être véritablement préjudiciables pour la cohésion sociale. Eh bien, je pense qu'il suffit de voir à quelle réalité ces mythes font revenir pour savoir exactement s'il s'agit de mythes positifs ou de mythes négatifs. En ce qui concerne, je crois, le mythe de la citerne, je pense que nous en sommes d'accord. Il suffit de voir, de revenir à ce que nous disions tout à l'heure, de comprendre, de se souvenir que ce sont ceux qui ont désobéi qui entrent. Il suffit de le voir pour savoir qu'il y a là affrontement, explosion, puisqu'il s'agit d'une partie simplement de la population qui va y entrer et pas l'autre. Il y a le peuple qui se divise en deux, il y a ceux qui font entrer dans la citerne d'un côté, et il y a ceux qui sont dans la citerne, qu'on envoie dans la citerne. Affrontement. Explosion. Le mythe est négatif. C'est un mythe qui est négatif et qui est porteur de charges explosives. Alors, La réponse que je donne à la question posée, c'est que oui, la citerne, c'est une réalité qui est devenue un mythe, mais un mythe négatif.